VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Ici à Bamako, 13 heures à Kinshasa, bienvenue à notre journal. RDC, l'opposant congolais Moïse Katumbi s'est présenté ce lundi au palais de justice de Lubumbashi avec des centaines de partisans pour répondre à une convocation judiciaire sur des soupçons de recrutement de mercenaires. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Le 24 avril, le gouvernement congolais avait annoncé avoir arrêté quatre gardes du corps de Katumbi, dont un Américain, lors d'une manifestation contre le pouvoir à Lubumbashi. Et mercredi dernier, le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers, dont des Américains liés, selon lui, à Katumbi. Ce dernier avait qualifié mercredi de mensonge grotesque ses allégations et de basse manœuvre du pouvoir pour lui nuire à l'approche des élections. Cette convocation intervient dans un contexte de climat politique très tendu en RDC depuis des mois en raison de l'incertitude liée au très probable report de l'élection présidentielle censée avoir lieu fin novembre.
Moïse Katumbi s'est donc présenté devant le parquet à Lubumbashi ce matin. Auparavant, l'ancien gouverneur du Katanga avait rejeté les accusations formulées contre lui. On l'écoute.
Moïse Katumbi, Salit est pacifique et la démocratie, c'est savoir dire oui ou non. Et j'ai dit non au glissement dans notre pays. Ils ont cité les États-Unis et l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si on recrute des mercenaires à Washington parce que la société que je suis allé consulter pour ma sécurité personnelle à Washington, c'est une société qui existe. Et en Afrique du Sud, je n'ai jamais demandé ma sécurité. Dans un pays sérieux, le directeur de renseignement devrait normalement démissionner. Malheureusement, notre justice n'est pas indépendante. Donc j'invite les États-Unis et l'Afrique du Sud qui puissent aussi participer à cette enquête internationale.
Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga en RDC. Reprise ce lundi du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale à La Haye. L'ancien président ivoirien et celui qui fut son ministre de la Jeunesse sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont plaidé non coupables à l'ouverture du procès le 28 janvier. Ce procès a repris aujourd'hui avec l'audition du cinquième témoin de l'accusation. Mali, les forces de sécurité maliennes ont mis la main sur l'un des principaux pourvoyeurs en logistique et armement des groupes djihadistes du sud malien. Yacouba Touré a été arrêté grâce aux informations données par Souleymane Keïta, le patron de la Katiba dans Sardine du Sud. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Reconverti en négociant de bétail depuis les attaques de Fakola et Misseni en 2015, Yacouba Traoré faisait la navette entre le Mali et la Côte d'Ivoire tranquillement avec ses animaux. Mais sa tentative de se soustraire de la vigilance des services de renseignement n'est pas allée loin, car ils l'ont arrêté à Bamako Senou le week-end dernier, où il devrait prendre la route de la Côte d'Ivoire avec des bœufs. Âgé d'une quarantaine d'années et originaire de Konio dans le cercle de Djéné, Yacouba Touré avait rejoint les groupes islamistes dans la région de Kidal en 2010 où il a reçu les formations militaires adéquates en maniement d'armes. Il devint alors un membre de la police islamique et fit la connaissance de Souleymane Keïta, émir d'Ansardine du Sud et Boubacar Savadogo, chef de la branche burkinabé d'Ansardine. Yacouba est l'un des initiateurs de la création de l'unité de combat, c'est-à-dire la Katiba terroriste du Sud au Mali, et y assurait le rôle principal en logistique et armement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nous restons en Afrique de l'Ouest, cap sur le Bénin maintenant. La question de l'immobilier reste un drame permanent que traversent bon nombre de Béninois qui du jour au lendemain se voient expulsés de leur appartement pour n'avoir pas eu les moyens de faire face à un loyer devenu excessivement cher. Pire encore, certains après avoir construit leur propre maison se voient expulsés par une décision de justice ayant statué que la parcelle était en litige. Une situation qui remet sur le tapis la question de la loi sur les biens fonciers, sur le logement. Descente aux enfers de l'immobilier du Bénin à travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Se loger au Bénin n'est pas chose aisée. Avoir un appartement à louer reste une preuve de force. Un projet qui vous ruine si vous n'êtes pas chanceux. Une véritable pagaille régit le secteur et profite plus aux propriétaires de maisons que les locataires qui, pour la plupart, s'endettent pour se loger.
Louer une chambre au Bénin, c'est les avances qu'il faut payer, la caution électricité qu'il faut payer. Donc, c'est souvent très, très, très difficile. Je trouve que c'est très compliqué pour le niveau de vie du Bénin. C'est très, très, très compliqué.
Lorsque vous devez clore le bail, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre caution entièrement. Il va falloir faire des va-et-vient. Et même quand le propriétaire trouve un nouveau locataire qui lui paie entièrement la caution demandée, il faut tourner en rond. Ça, c'est un cas que j'ai vécu personnellement.
L'absence d'une loi pour réglementer le secteur rend la situation plus difficile. Les propriétaires de maisons font de la surenchère, augmentent le loyer au gré de leurs humeurs et n'ont aucun scrupule à renvoyer à la rue femmes et enfants.
Voilà un pays où vous n'avez pas de test de loi qui fixe les loyers à payer lorsque vous vous retrouvez dans des appartements de telle dimension. C'est le propriétaire qui t'impose sa loi.
Je ne condamne pas celui qui, par faille de la loi, fait mal. Je condamne la loi qui n'existe pas et je propose qu'on la mette rigoureusement pour qu'il y ait moins de zèle chez les propriétaires et qu'il y ait aussi moins de mauvaise foi chez les locataires parce qu'il y a des locataires aussi qui ont très mauvais caractère.
Entre le propriétaire et le locataire se trouve un intermédiaire appelé démarcheur qui reste à tout point de vue un géant tous coincé dans la gorge du locataire. Pour la majorité illettrée, ils se servent du besoin pressant des locataires pour se faire de l'argent, souvent avec la complicité des propriétaires.
J'aperçois ça comme une sorte d'arnaque. On n'a pas des agences immobilières vraiment régulières, vraiment sécurisantes, qui peuvent réellement répondre aux attentes du locataire.
Aujourd'hui, pour les Béninois, il est impérieux que le législateur se penche sur la question afin de voter une loi pour siffler la fin de la récréation.
Une chose est de voter une loi, l'autre chose est de faire en sorte que cette loi soit connue de tout le monde et que les sanctions soient réellement appliquées à tout contrevenant de cette loi-là pour que les gens se mettent réellement au pas.
La location d'appartements est même un moindre mal quand on considère le drame qui entoure la vente des parcelles où plusieurs d'entre elles sont déclarées en litige pour le simple fait que certains propriétaires terriens, les yeux plus gros que le ventre, vendent les mêmes parcelles à plusieurs personnes. Vivement le vote d'une loi pour assainir le secteur de l'immobilier au Bénin pour mettre fin à la souffrance de certains propriétaires un jour, sans domicile fixe le jour suivant. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Au Comores, reprise partielle de la présidentielle mercredi dans le pays. Le scrutin aura lieu dans les bureaux de vote où le second tour avait été perturbé. Une reprise susceptible de changer les résultats très serrés de l'élection remportée par l'ex-putschiste Azali Assoumani. Seuls 6305 électeurs, soit 2% des quelques 300 000 électeurs que compte cet archipel de l'océan Indien, sont appelés aux urnes mercredi dans 13 bureaux de vote. Mais ils sont en mesure de faire basculer les résultats de la présidentielle. Somalie, au moins 5 personnes, 3 policiers et 2 civils, ont été tués aujourd'hui dans la capitale somalienne Mogadiscio lors d'une attaque à la voiture piégée menée par les militants islamistes Shebab contre le quartier général de la police des transports. Les deux assaillants, le conducteur de la voiture et un homme armé qui a tenté de pénétrer dans le poste de police, ont également été tués. L'attaque a été revendiquée par les insurgés Shebab affiliés à Al-Qaïda. Toujours concernant la lutte contre le djihadisme, la France va se doter d'ici à fin 2017 d'un centre de réinsertion dans chaque région pour personnes radicalisées ou susceptibles de basculer dans le djihadisme. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre français Manuel Valls. Ce nouveau plan de lutte contre le terrorisme, doté d'une enveloppe de 40 millions d'euros supplémentaires d'ici 2018, vise à doubler en 2 ans les capacités de prise en charge des jeunes actifs dans les réseaux djihadistes ou susceptibles de rejoindre leur rang. Et puis, ouverture ce lundi à Bruxelles, en Belgique, du procès d'une cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 à Verviers, dans l'est du pays. 4 des 16 prévenus sont actuellement incarcérés, dont Marwan El Bali, 26 ans. 9 prévenus en fuite ne seront pas présents aux audiences qui se tiendront dans un palais de justice de Bruxelles placé sous haute sécurité après les attaques revendiquées par le groupe État islamique qui ont fait 32 morts à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge le 22 mars. Et pour terminer, sport, football, la partie est définitivement perdue pour Michel Platini. Le tribunal arbitral du sport, TAS, a mis un coup d'arrêt fin brutal aujourd'hui à la carrière du patron de l'UEFA, dont la suspension de toute activité liée au football a été maintenue et seulement réduite de 6 à 4 ans. Conséquence, l'ancien meneur de jeu a annoncé qu'il démissionnait de la présidence de l'UEFA.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.